CIBL, au cœur de la culture.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ouais, cool, j'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
CIBL. 101, 102.
Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous passez une bonne matinée. Florence Aquilina au microphone des Aurores Montréal. Aujourd'hui, c'est ma dernière émission et on a une programmation bien chargée. On reçoit d'abord Luc Rabouin qui lance une première campagne de notoriété pour se faire connaître des Montréalais. On le reçoit aujourd'hui pour parler de sa vision pour la métropole, de ses priorités et de la compétition qui s'annonce face à Soraya Martinez-Ferrada. On reçoit aussi le directeur adjoint à la programmation et au développement des arts du cirque de la TOHU, Aaron Marquise, pour notamment parler de son festival Montréal complètement cirque qui se déroule du 3 au 13 juillet ici même à Montréal. On reçoit finalement Sylvie Dugré, directrice générale d'Audace Événements, qui orchestre le festival Rue qui, de son côté, aura lieu du 3 au 12 juillet sur Mont-Royal. Mais d'abord et avant tout, je tends mon micro à notre collaboratrice Rachel Castan pour la revue de presse.
Merci Florence. Alors, pour commencer la journée, une condamnation. Après 9 morts dans 2 incendies d'immeubles, le propriétaire Émile Benamor vient d'être condamné pour des sorties d'évacuation bloquées dans un autre immeuble situé à Notre-Dame-de-Grâce. Après le premier incendie en 2023, des irrégularités avaient déjà été constatées au niveau des portes de sortie. La première n'avait pas de poignée, tandis que la deuxième, elle était scellée avec du ruban adhésif et retenue par une chaîne. Pour rappel, Émile Benamor est un avocat et homme d'affaires montréalais. Le premier incendie meurtrier était celui de l'édifice William Watson Ogilvie. C'est là où 7 personnes ont perdu la vie. Puis en 2024, c'était au 400 rue Notre-Dame-Est, où 2 personnes ont perdu la vie. Monsieur Benamor a lui-même été la cible de 2 attaques. Sa voiture a été incendiée devant sa résidence et son bureau du Vieux-Montréal a été criblé de balles peu de temps après le deuxième incendie. Pour sa défense, il affirme avoir réalisé des inspections visuelles de l'extérieur, mais la juge Joanne Duplessis déclare « Une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que le défendeur ne se serait pas limitée à des inspections visuelles extérieures ». Direction Outremont à présent. À l'émission aujourd'hui, nous recevons Luc Rabouin, comme l'a dit Florence, le chef de projet Montréal, et ce dernier a présenté son candidat économique pour l'arrondissement d'Outremont, Alain Bakayoko. Alain Bakayoko va briguer la mairie sous la bannière de ce parti et affrontera la conseillère d'arrondissement Caroline Brown. Elle tentera, elle, de garder cet arrondissement aux mains d'Ensemble Montréal, comme c'est le cas depuis 2021. Pour rappel, Outremont est un théâtre de friction au sujet des constructions de lieux de culte de la communauté juive hassidique. Pourtant, avec une communauté juive en expansion, les lieux actuels ne suffisent plus, selon une étude publiée en juin 2021. À cela, M. Bakayoko appuie un nouveau rapport déposé en juin 2025 qui propose que l'arrondissement adopte un nouveau règlement d'usage conditionnel pour la création de petites synagogues. Bon, c'est encore un coup dur pour le porte-monnaie des Montréalais. Dans le Grand Montréal, un appartement de 2 chambres coûte maintenant 800 $ de plus qu'en 2019 en moyenne. Cela représente une augmentation de 71% selon les nouvelles données publiées par Statistique Canada. De leur côté, les villes de Vancouver et Toronto, qui affichent les loyers les plus chers au pays, ont connu des hausses plus modérées. Mais bon, il n'y a pas que la ville de Montréal qui a connu de fortes hausses dans les dernières années. Les villes de Sherbrooke et de Drummondville n'ont pas été épargnées, avec des prix de loyer qui ont doublé de 2019 à 2025. Aujourd'hui démarre le Festival international de jazz à Montréal. Cette 45e édition se tiendra jusqu'au 5 juillet dans le quartier des spectacles. Au-delà des concerts payants de Nas, Samara Joy, l'acteur et pianiste Jeff Goldblum et j'en passe, le festival propose également de nombreuses prestations gratuites. Donc je vous invite à consulter la programmation sur le site internet du festival. Et pour finir cette revue de presse, après Dune, Denis Villeneuve va s'attaquer à une autre saga culte, roulement de tambour, James Bond. En effet, le Québécois Denis Villeneuve réalisera le prochain film de la série James Bond pour les studios Amazon MGM. Ce 26e de la série de films sera le premier depuis que la franchise a été rachetée par Amazon et pourrait être tournée l'année prochaine. Alors oui, on se le demande tous, mais pour le moment, aucune information concernant l'acteur qui enfilera le smoking de l'agent 007 n'a été dévoilée.
Merci Rachel pour ces informations. On passe maintenant en musique avec Elliot Maginot et Parmi les autres, et on revient très rapidement avec Luc Rabouin.
Souvent, je sais où tu t'en vas quand tu t'éteins. Sûrement, je sais les pas à faire pour te rejoindre. Bien sûr, je me reflète en toi par habitude. Peut-être je t'abandonne. Fais de toi une lettre morte de temps en temps. Bien sûr, je me projette en toi. À qui la faute? Mais je fais de mon mieux pour te suivre parmi les ombres. Et je fais ce que je peux malgré la force. Si je perds ta trace, je te verrai en sortant. Il est temps que je fasse le dernier bout en courant, en courant. J'espère que tu comprends. Je sais maintenant ce que je veux, ou à peu près. Même si tout est plus compliqué parmi les autres, j'ai eu ce que j'avais à voir. Et finalement, je prendrai le crachoir.
Dans les Aurores, Montréal, votre émission du matin sur les ondes de CIBL 105, Florence au microphone. À 4 mois des élections municipales, Projet Montréal tourne une page. Luc Rabouin, ancien maire du Plateau et nouveau chef du parti, veut, et là je cite un article de la presse, sortir de l'ombre de Valérie Plante. Il lance une première campagne de notoriété pour se faire connaître des Montréalais. On le reçoit aujourd'hui pour parler de sa vision pour la métropole, de ses priorités et aussi de la compétition qui s'annonce face à Soraya Martinez-Ferrada. Merci beaucoup, Monsieur Rabouin, d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, Florence. Ça me fait grand plaisir.
Donc, vous dites que les Montréalais ne vous connaissent pas. Alors, je vous pose la question, qui est Luc Rabouin en dehors du politicien aussi?
Oui. En fait, c'est ça. La population en général ne me connaît pas, mais elle connaît pas non plus la candidate d'Ensemble Montréal. On est deux personnes qui sont pas connues du grand public. Les gens qui sont impliqués ou qui suivent de près la politique municipale nous connaissent, mais la population en général, non. Donc, moi, je suis... premièrement, je suis un papa de deux grands-enfants. Ma fille a eu 18 ans lundi. Ça, c'est ma petite.
Okay.
Et mon garçon va avoir 20 ans dans deux semaines. Donc, je suis un papa. Je suis quelqu'un qui est engagé depuis plus de 25 ans. Donc, j'ai été impliqué dans différentes organisations sociales, communautaires. J'ai travaillé en environnement. J'ai travaillé en développement économique. Donc, avant d'être un élu, j'étais dans l'équipe de direction de la Caisse d'économie solidaire Desjardins, donc une institution qui est spécialisée dans le financement des entreprises collectives, comme CIBL. Et avant ça, j'ai travaillé aussi à PME Montréal, donc l'accompagnement d'entreprises, le développement économique local. Ça a été une partie de ma carrière professionnelle, mais j'ai aussi été deux ans à Paris où j'ai dirigé Communauto, la filiale de Communauto.
Oui.
Quand Communauto a acheté l'entreprise parisienne, j'étais à Paris, donc j'ai fait ça. J'ai dirigé pendant 6 ans le Centre d'écologie urbaine de Montréal, donc j'ai travaillé aussi en environnement. Puis avant ça, j'ai travaillé 9 ans comme organisateur communautaire dans un CLSC à la Chine. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les questions de développement social dans un arrondissement qui est excentré, donc qui n'est pas dans un quartier central de Montréal. Donc je connais bien aussi la réalité des quartiers excentrés. Donc tout ce parcours-là, si on veut, à la fois social, environnemental, développement économique, m'a préparé, je pense, m'avait préparé à être maire du plateau. Et les 5 dernières années, bien, j'ai été maire du plateau, responsable du développement économique au comité exécutif.
Oui.
J'ai été président du comité exécutif, responsable des finances. Donc, je connais bien la machine, autant en arrondissement qu'à la ville. Donc, c'est pour ça que je pense que je suis bien, bien prêt à faire le prochain saut, là, qui est d'occuper le poste de maire de Montréal.
Vous connaissez effectivement bien la machine parce que vous avez occupé des rôles assez centraux au sein de Projet Montréal. On pourrait même dire que vous étiez le bras droit, en quelque sorte, de Valérie Plante. Je vous avais posé la question la dernière fois qu'on s'était rencontrés, mais là, maintenant que vous lancez officiellement votre campagne, vous n'aviez pas été élu chef de Projet Montréal la dernière fois qu'on s'est rencontrés, pour mettre en contexte. Je vous repose la question. Vous avez travaillé aux côtés de Valérie Plante. En quoi votre leadership va se distinguer du sien?
Ouais. Donc, tout le monde qui nous voit un à côté de l'autre comprend assez vite qu'on n'a pas le même style. Je pense que ça, c'est assez évident. La mairesse de Montréal, c'est une personne qui est flamboyante, hyper charismatique. Moi, je suis quelqu'un qui est plus un profil de gestionnaire. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans la direction d'organisation. Je suis quelqu'un qui est engagé socialement depuis toujours. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi. La politique municipale, par contre, c'est nouveau. Ça fait un peu plus de 5 ans que je suis en politique municipale, active, même si je faisais de l'engagement social avant. Donc, j'ai un style qui est, je dirais, plus axé sur les résultats concrets, la collaboration. Donc, moi, dans tout mon parcours professionnel, j'ai toujours travaillé avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, je suis quelqu'un que les gens apprécient collaborer avec moi. Je suis quelqu'un qui écoute pour vrai, donc avant de prendre des décisions. Donc, je pense qu'on arrive avec un style qui est différent. On a un parcours qui est différent aussi. Donc, moi, je suis vraiment motivé par des solutions concrètes qu'on peut mettre en place, nous-mêmes, la ville. C'est vraiment ça qui m'anime et c'est là-dessus que je veux orienter mon action. Puis vous allez sûrement me poser la question aussi, parce que c'est intéressant de savoir ce qui me distingue d'avec la mairesse de Montréal, mais ce qui me distingue aussi d'avec la chef de d'Ensemble Montréal. J'imagine que vous allez
la question.
On y reviendra si vous souhaitez.
Ben justement, vous parlez d'avoir un style différent et ça se reflète dans votre slogan, parce que votre campagne s'articule autour du slogan « Un nouveau regard » avec le symbole des lunettes que vous-même vous portez. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, cette vision pour la ville? Vous avez parlé du fait que vous êtes axé sur les résultats concrets, sur les solutions concrètes. À quoi ça ressemble?
Bien, premièrement, un des éléments qu'on veut attirer l'attention, c'est mon regard sur la ville est différent et il est fortement teinté par mon parcours professionnel, bien sûr, par mes 25 années d'engagement. Donc, pour moi, le développement économique augmente dans l'échelle de priorité de Projet Montréal avec mon arrivée, mais aussi à cause du contexte actuel d'incertitude avec ce qui se passe aux États-Unis. Les gens sont inquiets, c'est normal, ça a beaucoup influencé la dernière campagne électorale fédérale. Donc, l'économie monte dans l'échelle de priorité. Moi, j'arrive avec un bagage en développement économique. On a annoncé ce matin notre candidat, la mairie d'Outremont, oui. qui est quelqu'un qui a un profil économique. On va avoir d'autres candidats, candidates aussi. Je veux avoir une équipe économique forte. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est plus récent à Projet Montréal. C'est quelque chose que moi, je veux amener. L'autre élément, je veux qu'on garde une vision ambitieuse pour Montréal. Moi, je reste sur cette vision ambitieuse-là qui est celle de Projet Montréal. On veut axer sur la transition écologique. On rêve d'un réseau de tramway à Montréal. C'est ça qu'on a mis dans notre plan d'urbanisme et de mobilité. Mais dans les 4 prochaines années, on a de l'espoir pour tramway vers la Chine. On a de l'espoir pour le réseau, le tramway vers l'est de Montréal. Il y a des engagements gouvernementaux. Mais on n'aura pas complètement le réseau de tramway dans les 4 prochaines années sur l'ensemble de l'île. Donc, en attendant, moi, je veux miser sur le réseau de bus. Parce que ça, on peut le faire nous-mêmes, la ville, sans dépendre des autres palais de gouvernement. C'est ça un peu le ton que je veux donner. C'est ça que j'ai donné dans la campagne à la chefferie. Donc oui, on a des ambitions importantes. Plusieurs des grands projets dont on rêve à Montréal dépendent de l'implication du gouvernement du Québec et du fédéral. Il y a des choses qui ne dépendent que de nous. Donc ça, moi, je veux le faire. Puis je veux continuer à représenter la population pour aller chercher des engagements des autres palais de gouvernement, mais je veux vraiment me mettre dans un mode collaboratif avec eux. Je vous donne juste l'exemple. Il y a 2 semaines, on a annoncé la requalification de l'Institut des sourdes muettes sur le plateau Mont-Royal. C'est 800 logements qui vont pouvoir être construits sur la rue Saint-Denis, à 2 pas du métro, du quartier latin. Bien, pour arriver à faire ça, là, il fallait avoir une entente avec le gouvernement du Québec. J'ai parlé avec la ministre de l'Habitation, on a discuté avec le ministre des Infrastructures, on a eu plusieurs discussions, puis on est arrivé à un consensus, puis là, on a un projet. Moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, je veux arriver vraiment à miser sur la collaboration, qu'on s'entende sur des objectifs communs. Puis bien sûr qu'il y aura des sujets sur lesquels on ne s'entendra pas, mais ce sur quoi on s'entend, il faut arriver à avoir des résultats pour la population.
Donc, vous parlez de résultats concrets. On sent un certain réalisme aussi. Le projet du tramway a été très médiatisé, très discuté. Il y a eu beaucoup de dialogue et pas nécessairement d'unanimité. Et là, vous venez de dire, mais moi, je veux mettre la priorité sur les bus avant tout. Donc, est-ce que vous ressentez aussi ce réalisme-là dans être ambitieux, mais être réaliste malgré tout, ça reste dans vos objectifs?
Bien, ça, je pense que ça me définit.
OK.
Moi, je suis quelqu'un qui est hyper pragmatique.
OK.
Donc, je suis tout à fait capable de rêver. Donc, comme je le dis, je rêve au réseau de tramway. Mais il faut qu'on avance vers le réseau de tramway. Il ne va pas arriver demain matin. Puis pour être capable d'avancer vers le réseau de tramway, il faut avoir une stratégie. Puis moi, je pense qu'en implantant des voies réservées pour les bus, ça va faire que les gens vont prendre plus le bus parce qu'ils ne seront plus pris dans le trafic, puis ils vont avoir un réseau efficace. Puis on va augmenter l'achalandage, donc on va être capable de justifier que le bus, ce n'est pas suffisant, il faut aller peut-être vers un SRB. Puis là, on va aller vers un SRB, puis là, les gens vont le prendre, puis il va y avoir de plus en plus de monde qui va nous permettre de justifier qu'il faut investir pour mettre un tramway. Donc, je garde le cap sur l'ambition, mais je veux me donner les moyens concrets d'aller vers cette ambition-là, puis pas attendre le grand jour d'être capable tout de suite de faire des changements dans la vie des gens.
Toujours pour parler de vos engagements, donc lancer un réseau express pour autobus avec plus de voies réservées, ça, c'en est un. Réduire de moitié aussi les délais pour les permis de construction. Pourquoi ces enjeux-là, spécifiquement, sont-ils si centraux, là, de votre côté?
Sur les permis de construction, bon, on est dans une crise du logement qui est majeure. Pour moi, c'est clair que c'est la priorité numéro un des Montréalais. C'est ma priorité numéro un, faire face à la crise du logement. Il y a beaucoup d'éléments dont on n'a pas le contrôle, la ville. Donc, des éléments qui expliquent le ralentissement dans la construction, c'est les taux d'intérêt élevés. C'est ça qui a fait que les montages financiers ne fonctionnaient plus pour les développeurs. Les coûts de construction élevés. Suite à la pandémie, là, les coûts de main-d'œuvre, les coûts des matériaux, les taux d'intérêt, tout ça a augmenté, ce qui fait que les modèles économiques ne fonctionnaient plus. Et là, on a eu un effondrement des mises en chantier. Pendant ce temps-là, les promoteurs réalisaient les projets qui étaient déjà cannés, qui avaient déjà le financement, tout ça. Nous, la Ville, on n'a pas d'impact là-dessus. Ce sur quoi on a un impact, c'est sur les délais d'octroi des permis. Donc, on fait 2 choses. On a adopté le plan d'urbanisme et de mobilité, qu'on vient d'adopter il y a quelques semaines. Et ça permet d'ouvrir les possibilités pour les développeurs en termes de densité. Parce que quand le modèle mathématique ne fonctionne pas, c'est parce que ton coût de logement sur ton terrain te coûte trop cher, puis il n'y a personne qui est capable de payer ce prix-là. Quand tu offres de la densité, bien, tu peux mettre plus de logements, ce qui fait que c'est un peu moins cher à chacun, puis les gens sont capables de payer. Ça, c'est le plan d'urbanisme. On l'a adopté. L'autre élément, c'est trop long pour avoir son permis à la ville. C'est des coûts pour les développeurs. Donc, nous, il faut qu'on aille plus vite. Ce qu'on a fait dans la dernière année, c'est qu'on a développé une nouvelle norme de service, 120 jours. On l'a fait, là. Ce n'est pas quelque chose que j'annonce ce matin. Tous les arrondissements maintenant pour un projet qui respecte les droits, les règles, qui ne demandent pas de modification au zonage ou d'exception, c'est 120 jours pour donner un permis. Il n'y avait jamais eu ça à la ville. On a fait ça. Moi, je vais aller encore plus loin de dire, OK, les délais de permis sont trop longs, on s'engage, la ville, à réduire de 50 % les délais de permis. Puis quand on se donne une cible comme ça, bien, ça oblige tous les arrondissements, tous les services de la ville à mettre en place des moyens pour qu'on respecte cet engagement-là. C'est la même chose avec le 120 jours. À partir du moment où on a dit 120 jours, tout le monde doit le respecter. Et là, en disant qu'on va diminuer de moitié les délais, je pense que c'est un message qu'on veut envoyer aussi aux développeurs, que nous, on veut jouer notre rôle, ce qu'on peut faire pour faciliter la réalisation de nouvelles unités de logement. Et Laval a réduit ses délais de 50 %. Donc, je me dis, si Laval est capable, Montréal est capable aussi.
Monsieur Rabouin, le temps file. Donc, vous aviez raison, je vais tout à fait vous poser une question sur votre rival. On va terminer sur cette note-là. Votre adversaire, Soraya Martinez-Ferrada, qui se présente d'ailleurs comme mairesse du logement, affirme vouloir rebâtir le lien de confiance entre la ville et les Montréalais. Et elle soutient que sous projet Montréal, je la cite, tout semble plus compliqué et que communiquer avec la ville est devenu un parcours du combattant. Comment réagissez-vous à ces critiques et comment vous allez vous distinguer justement de madame? Madame Martinez-Ferrada.
Oui, tout à fait. Il y a deux différences, je pense, qui sont très importantes. La première, c'est que moi, je ne suis pas un politicien de carrière. Moi, ça fait à peine 5 ans que je fais de la politique. Dans les 20 dernières années, j'ai occupé des fonctions de direction, de gestion. J'ai eu beaucoup de responsabilités. Donc, je comprends comment les choses fonctionnent, puis je suis capable de prendre des décisions et d'améliorer les processus. Deuxième élément, c'est que je sais de quoi je parle. Parce que ça fait 5 ans que je suis dans le poste de responsabilité au comité exécutif. J'ai été maire d'arrondissement. Je suis maire d'arrondissement encore jusqu'au 2 novembre. Donc, je comprends très bien comment les choses fonctionnent et je suis en mesure d'amener les changements qui sont nécessaires. Et un de mes mantras qui va être dans le prochain mandat, c'est simplifier la ville, simplifier la vie des gens. Ce n'est pas devenu compliqué à Montréal. C'est compliqué à Montréal. Ça a toujours été compliqué à Montréal.
Parce Donc, vous êtes quand même d'accord avec cette critique-là au niveau de la complexité?
Que les choses sont compliquées? Absolument. Absolument. Les choses sont compliquées. On a des gens qui travaillent à développer des projets immobiliers qui sont tout à fait alignés avec nos objectifs. C'est ça qu'on voudrait faire, nous. Puis pour eux, même eux, c'est compliqué de passer à travers le processus. Il faut qu'on simplifie la ville. Et moi, je suis totalement engagé là-dedans. La différence, c'est que moi, je sais comment le faire, puis je vais le faire.
D'accord. Et aussi, vous avez mentionné d'avoir de l'expérience quand même en politique municipale. Madame Martinez-Ferrada, avant, avait de l'expérience au fédéral, notamment, et là, elle a fait le switch, comme on dit en bon français. Vous croyez que c'est un atout, ça, de votre côté à vous?
De mon côté, oui, parce que moi, la politique municipale, c'est le seul palier qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé. C'est un palier où on peut faire des actions concrètes, où on change la vie des gens. Et vous savez, on a eu ça pendant longtemps à Montréal. Des politiciens qui viennent du fédéral, du provincial, puis qu'en fin de carrière, ils viennent comme finir leur carrière à Montréal. C'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin des gens que Montréal, c'est leur unique priorité, puis c'est pour ça qu'ils vont être dédiés.
Ce sera votre mot de la fin, M. Rabouin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Donc, on passe maintenant en musique avec Paul et Tableau de Craie, et on revient très rapidement avec Sylvie Dugré.
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, société, art, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Les jeudis, 10h sur CIBL FM.
La girafe en blues. À chaque semaine, Jean Gagnon Doré reçoit un artiste de la scène musicale québécoise. La girafe en blues, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h.
Ici Métis, vous écoutez On s'en rap sur les ondes de CIBL 101,5 au cœur de Montréal. Chaque lundi, de 5 à 7, c'est votre rendez-vous pour le meilleur du hip-hop d'ici et d'ailleurs. Chaque semaine, on a des entrevues, des performances live, on couvre tout. Le hip-hop québécois d'ici et d'ailleurs, à On s'en rap. Oh yeah!
CIBL 101.5 Montréal.
Vous êtes dans les Aurores Montréal, votre émission du matin sur les ondes de CIBL. Florence au microphone. On parle souvent de culture de proximité, d'art accessible, aussi de ville vivante. Et il se trouve que du 3 au 12 juillet, l'avenue du Mont-Royal accueillera le festival Rue. Porté par Audace Événements, ce rendez-vous transformera l'espace public en scène ouverte entre musique, cirque, danse et slam. Et pour en parler ce matin, on reçoit Sylvie Dugré, directrice générale d'Audace Événements, qui orchestre ce grand rendez-vous. Rendez-vous culturel. Je tends mon micro à notre collaboratrice Naomi Alton qui mènera cette entrevue. Naomi?
Merci Florence. Bonjour Sylvie.
Bonjour Naomi.
Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le RU pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore? Comment vous...
Bien, certainement. Vous le Festival RU, c'est un rendez-vous culturel annuel sur l'avenue du Mont-Royal. Donc, ce sera cette année une vingtaine de spectacles gratuits sur deux week-ends. On s'installe, on s'ancre dans le Parc des Compagnons, qui est un parc qui donne sur l'avenue du Mont-Royal, à l'angle de la rue Cartier. Puis, comme vous l'avez mentionné en présentation, c'est un événement qui touche à plusieurs disciplines. Donc, on y retrouve de la musique, de la danse, du slam. D'ailleurs, on a vraiment une tradition avec le slam parce qu'on présente chaque année dans le parc les finales ou les demi-finales. Il y aura également de l'humour, du cirque. Donc, c'est un rendez-vous pour les Montréalais, pour les visiteurs. Et évidemment, les gens du quartier, on est dans leur cour arrière. Alors, c'est vraiment un rendez-vous aussi pour les gens du quartier.
Pourquoi RU? Pourquoi cet acronyme?
Pourquoi RU?
Oui.
Ben RU, c'est pour réappropriation urbaine. Donc, c'est ce qu'on fait, hein. Vous savez, depuis maintenant plusieurs années, on a la piétonnisation aussi sur l'avenue du Mont-Royal. Donc, on a transformé l'artère en grand parc urbain. On veut que les gens se réapproprient leur ville, leur quartier. Je pense que c'est vraiment le mot d'ordre présentement dans plusieurs quartiers, dans plusieurs villes aussi. Donc, c'est ce qu'on fait avec RU. Et RU, c'est quelque chose qui est très accessible. C'est un spectacle de professionnels, mais avec des artistes qui sont plus établis. Il y en a d'autres qui sont émergents. Donc, on se réapproprie nos parcs, nos villes cet été avec RU.
Qu'est-ce qui a évolué? Ça fait bientôt 10 ans. Ça fait déjà 10 ans. Ça fera 10 ans l'année prochaine que le festival existe. Qu'est-ce qui a évolué depuis 2016?
Ben, je vous dirais que ça fait plus de 10 ans parce que le spectacle RU fait suite à Nuit Blanche sur Tableau Noir qui était là dans les années 90. Mmh. Donc, c'est plus de 20 ans qu'on offre. C'est dans l'ADN de l'avenue du Mont-Royal, hein, d'offrir une programmation culturelle d'art vivant en plus de faire du design puis de l'aménagement. Donc, les premières années, c'était plutôt versé vers les arts visuels. Il y avait beaucoup, entre autres, certains se souviennent certainement de Nuit Blanche sur Tableau Noir où il y avait des peintres la nuit qui faisaient des fresques au sol. Je vous dirais qu'on a un peu actualisé peut-être ou changé la programmation en l'amenant plus vers de l'art vivant sur scène, vu qu'on a la Pietro qui nous offre des expos photos, des fresques aussi. Donc, on concentre les spectacles dans la rue là, maintenant. C'est cette façon-là que l'événement a évolué.
Et vous nous expliquiez, on le disait aussi en introduction, on parlait de la diversité dans la programmation.
Oui.
Le festival ne hiérarchise pas les formes, donc slam, danse, cirque, chansons d'auteur, électro-funk,
oui,
tout cohabite dans un même espace. Est-ce que vous diriez que vous revendiquez une approche un peu anti-élitiste des arts vivants?
Disons que on fait ça à notre image, hein. Je veux dire, on se prend pas pour un festival élitiste, un festival spécifique de musique, de chansons ou de cirque. On veut vraiment offrir aux gens une palette d'activités qui répond, qui est diversifiée, puis qui répond aussi à la clientèle qu'on a, une clientèle diversifiée. Puis c'est à l'image des Montréalais, je dirais, là.
Oui, et toujours. Dans le même esprit, tous les spectacles sont gratuits et accessibles.
Oui.
Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est un parti pris politique autant qu'artistique?
Ben c'est ce qu'on offre. On travaille dans un parc. On fait ça en plein air, en public. Oui, je pense que c'est vraiment un choix très assumé d'offrir au public un festival qui est gratuit, qui est accessible. Cette clientèle-là, c'est beaucoup de clientèle familiale aussi. On veut permettre à toutes les familles d'avoir accès. C'est de la réappropriation urbaine, donc avoir accès à leur culture, avoir accès aux artistes montréalais. Donc oui, c'est un choix qui est très assumé là, d'offrir des spectacles gratuits.
Et puis, Sylvie, l'accès à la culture est encore très inégal et j'aurais aimé savoir comment vous pensez l'équilibre entre un événement festif et la question de la démocratisation culturelle de l'accès à la culture en général.
Je pense que ce qu'on offre, c'est clairement assez démocratique. par rapport à la gratuité, je pense que c'est quelque chose qu'on offre depuis 20 ans. Donc, il n'était pas question de revenir là sur cette question-là. Donc, c'est quelque chose qui est à notre image, là, tout simplement.
Une autre question, on ne peut pas passer à côté des défis de l'organisation d'un tel festival en pleine saison touristique. Pardon, ce n'est pas rien. Donc, quel défi concret a rencontré l'équipe pour l'organisation du RU?
Mais écoutez, c'est sûr qu'on n'est pas les seuls. Hein? On voit que le paysage culturel montréalais est foisonnant. Mm-hmm. Donc, il y a un défi aussi d'aller chercher des artistes, d'avoir des pépites dans notre programmation. Souvent, les artistes sont pris avec les Franco qui viennent de se terminer. Mm-hmm. Il y a le festival de jazz qui commence. Il y a des festivals à travers le Québec aussi. Donc, ça, c'est le premier défi, je vous dirais, d'être capable de penser une programmation à l'avance pour aller chercher les gens qu'on veut, qui représentent bien l'avenue, qui représentent bien là, l'ADN de RU. Entre autres, cette année, on voulait vraiment inviter Jeanne Côté à notre événement qui va être là, qui va clore le festival. Mmh. Puis Jeanne est très en demande ces temps-ci. Alors, même si elle est une artiste quand même assez en début de carrière, elle est devenue une incontournable dans le paysage montréalais. Donc, elle faisait les Franco, elle fait plusieurs festivals. Puis vu qu'on lui a demandé d'apparaître là, au Festival RU, puis était contente de ça, mais elle a dû faire une place dans son agenda pour être là. Donc, c'est un des défis là à laquelle on est confronté là quand on fait un festival au mois de juillet à Montréal.
Et en termes de logistique, ça demande quoi? Puisque c'est quand même le fait de le faire en extérieur, dans une rue, ça demande une organisation logistique. Est-ce qu'il y a des défis spécifiques par rapport à ça?
Oui, bien, c'est sûr qu'il y a toujours un enjeu de sécurité. On fait attention, mais nous, ça fait quand même 20 ans qu'on fait des événements en rue. Donc, on a quand même une bonne logistique de bien roder là pour tout ça. Maintenant, on est beaucoup en développement durable. On essaie d'être très local dans l'approvisionnement, dans les équipements. On peut plus passer à côté de ça maintenant. Là, puis s'il y a de la bouffe sur le site, là, ça doit vraiment être des contenants qui sont réutilisables et tout ça. Donc ça, c'est les défis que l'on rencontre. Mais je vous dirais que c'est pas, faut pas s'arrêter aux défis. Hein. C'est des défis, faut les remonter, puis faut offrir vraiment quelque chose là d'éclatant là à la population.
Et pour revenir un petit peu sur la programmation, comment vous choisissez les artistes? Quelle ligne artistique guide un petit peu la sélection?
Bon, comme je disais tout à l'heure, on joue entre les artistes qui sont plus établis puis des artistes plus émergents. On aime aussi découvrir des gens qui vont être avec nous dans leurs premières années professionnelles puis qu'on va suivre par la suite. Bon, c'est le cas d'Alphonse Bisaillon qui va faire l'ouverture aussi du festival. Mm-hmm. Alphonse a été découvert et a reçu le prix MOUF l'année passée, en 2024. Donc, c'est quelqu'un qui manie très habilement les mots. C'est vraiment une espèce de magicien. Il y a beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour aussi dans ses spectacles. Je pense qu'on c'est un artiste qu'on va voir sur la scène montréalaise dans les prochaines années. Donc, ça nous guide beaucoup. Pour la plupart des gens qui sont sur scène cette année, c'est des gens qui sont déjà dans un milieu professionnel, mais qu'on va voir beaucoup sur les grandes scènes dans les années à venir.
Est-ce que vous avez...
Pour le reste, ben, oui.
Oui, non, je vous en prie.
Puis pour le reste, ben c'est sûr qu'on a un public très familial aussi, donc on veut s'adresser à tout le monde. Donc, il faut avoir des spectacles, on a des spectacles de cirque, on a du clown aussi pour les plus jeunes, le plus jeune public. Donc, faut vraiment, on a une grande palette. Là,
est-ce que vous auriez un coup de cœur dans la programmation de 2025 ou deux coups de cœur incontournables?
Oui. Ben j'en ai plusieurs. J'ai parlé de Jeanne Côté tout à l'heure. C'est vraiment ça c'était mon notre petit bonbon. Je veux dire, quand Jeanne chante, on fait un peu le vent du large, là. Jeanne Côté, qui est native de Petite Vallée, j'ai l'impression qu'un peu comme Obélix est tombé dans la potion magique quand elle était petite. Elle a une aisance extraordinaire sur scène. Puis en début de spectacle, elle nous prend par la main, puis on la suivrait jusqu'au fin fond de sa Gaspésie. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur pour le festival. Puis dans les nouveaux visages aussi, il y a Favel, qui fait de l'électro un peu vintage avec des... On sent un peu les années 80 là, dans sa musique, puis c'est un électron libre. Je vous dirais que dans la programmation, l'électron libre, c'est Favel cette année. Il est accompagné d'un groupe qui s'appelle Les Dangereux Personnages, et je pense que il nous a promis de faire le party sur le parc et de faire danser la population. Alors, s'il y a des gens qui ont envie de danser, au mois de juillet, le rendez-vous, c'est jeudi le 10 juillet au Parc des Compagnons. Bien. Alors ça, c'est deux petits coups de cœur, mais j'ai aussi, il y a un spectacle de clownesque qui s'appelle Mario a un incroyable talent. Ça, c'est un spectacle qui a été mis en scène par Yves Dagenais. Les plus vieux d'entre nous vont se rappeler de Au Merveilleux, qui était le personnage d'Yves Dagenais. Yves Dagenais, je pense, fait le tour du monde avec son personnage Au Merveilleux. Donc, c'est un spectacle dans la grande tradition du clown sans parole. C'est un spectacle très rigolo où l'artiste prend un peu les spectateurs pour un jury d'un concours de talent. Alors, c'est quelque chose de très rigolo. Je pense que les enfants vont prendre plaisir, mais les grands aussi. Donc, je vous dirais que c'est dans mes coups de cœur, là, c'est mes coups de cœur de 2025.
Merci pour le partage, Sylvie. Alors, rapidement, une dernière question. Est-ce qu'il y a des suites, des projets similaires, des événements à venir, portés peut-être aussi par Audace, événements qui ressembleraient aux rues pour le reste de l'année?
Ben, pour le reste de l'année, je vous dirais que Audace participe avec, tu sais, Audace, c'est la filiale de l'avenue du Mont-Royal. Donc, on participe aussi à la piétonnisation. Donc, dans le cadre de la piétonnisation, on a plusieurs choses. On a des fraises de rue. On a quelques animations aussi, mais c'est quelque chose de différent. Sinon, en période hivernale, on a un événement qui s'appelle Mon Beau Sapin, on fait de l'animation aussi, puis on récolte des denrées, là, pour la période des fêtes, mais notre période forte, c'est vraiment période estivale avec la piéto de l'avenue du Mont-Royal et le festival rue qui va se dérouler là, du 3 au 13.
Très bien. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à toi.
Merci. Bonne journée.
Merci, Naomi, pour cette entrevue. C'était Sylvie Dugré, directrice générale d'Audace Événements. Et un rappel que le festival Rue aura lieu du 3 au 12 juillet sur l'avenue du Mont-Royal. On passe maintenant en musique avec Didier Chapelaine et ses maudits français, une reprise de la complainte du phoque en Alaska. Et on revient très bientôt avec Aaron Marquise.
Crie-moi pas, quelque part en Alaska, et un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul. Il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux États en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Oh, 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 oh. Quand le phoque s'ennuie Il regarde son poil qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire un show. C'est rien qu'une histoire, je veux pas m'en faire à croire, mais des fois j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace, les deux mains dans la face. Mon amour est parti, puis je m'ennuie. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Oh, 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 oh. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez.
Vous êtes dans votre émission du matin, Les Aurores Montréal, sur les ondes de CIBL 101.5, Florence au microphone. Seul diffuseur spécialisé en cirque contemporain en Amérique du Nord, la TAHU appuie le développement de la discipline circassienne d'ici et d'ailleurs en saison, mais aussi via son festival Montréal Complètement Cirque, qui se déroule du 3 au 13 juillet, ici même à Montréal. Ancrée au cœur du quartier Saint-Michel, la TAHU agit comme moteur de vitalité culturelle, sociale et économique dans son territoire. Et pour en parler ce matin, nous recevons le directeur adjoint à la programmation et au développement des arts du cirque de la TAHU, Erin Marquise. Je tends donc mon micro à notre collaboratrice Pénélope Vidal qui mènera cette entrevue. Pénélope.
Bonjour Erin Marquise, merci d'avoir accepté notre invitation.
Oh, ça fait plaisir, merci à vous.
Alors pour commencer cette entrevue, pouvez-vous nous parler rapidement de l'histoire de la TAHU?
Mais la TAHU a 20 ans, on vient de terminer notre 20e saison. La TAHU a été fondée par Empiste, qui est l'Association des arts du cirque ici au Canada, ainsi que l'École nationale du cirque et le Cirque du Soleil, parce qu'il y avait une envie d'avoir un lieu emblématique pour présenter des arts du cirque qui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc on a été fondé dans le quartier des arts du cirque, la cité des arts du cirque, à côté de le siège social du Cirque du Soleil à Saint-Michel. Et il y avait l'école du cirque qui est en face chez nous. Donc, on est tous les trois à Saint-Michel.
D'accord. Donc, tous les trois collègues au même endroit.
Oui.
En tant que directeur adjoint à la programmation cirque, vous développez une programmation québécoise, mais aussi internationale. En quoi consiste exactement votre métier?
Pour moi, ce que je fais dans mon métier, c'est que je fais beaucoup de déplacements partout autour du monde pour chercher des spectacles, des artistes, des compagnies pour les inviter chez nous en saison ou en festival à la TAHU. Mais aussi, je fais des déplacements au Québec, au Canada, aux États-Unis pour chercher les meilleurs spectacles, les meilleurs artistes qui ont des œuvres, des spectacles qu'on aimerait présenter chez nous pour faire le lien entre les arts du cirque avec le public qui veut voir des spectacles, le meilleur qu'on peut trouver.
D'après votre site internet, la TAHU est basée sur trois volets distincts, mais très complémentaires. Mmh. Donc, il y a le cirque, la terre et l'humain. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit?
Oui, en fait, on a parlé beaucoup sur le côté cirque, mais la TAHU est un bâtiment LED. Ça veut dire que dans la construction du bâtiment de la TAHU, il y avait un focus sur tout ce qui est éco, d'être sûr que le bâtiment répond de ses besoins, ce qui était nouveau à l'époque, il y a 20 ans. Mais on parle beaucoup de ça aujourd'hui, ce qui est important. Mais aussi, la TAHU est très ancrée dans le quartier Saint-Michel. On est tous une programmation culturelle, éducation et loisirs aussi, où on offre des activités pour notre quartier, des habitants de la quartier Saint-Michel, différentes activités, programmations aussi pour eux. Et en fait, il y a beaucoup de gens du quartier qui travaillent chez nous, des fois dans les postes pour rentrer au travail, la billetterie ou l'accueil ou dans le bistrot à la TU. Donc, on est vraiment connecté à notre quartier aussi.
Vous êtes donc même un employeur local.
Exact.
Donc, vous êtes très tourné vers la communauté, vers le social. Mais peut-on dire que la TOU est aussi caractéristique de la vie culturelle de Montréal?
Oui, c'est sûr, avec tout ce qu'on fait. Mais moi, je suis diplômée de l'École nationale du cirque en 2015. Et même pour moi, quand je suis arrivée à Montréal pour la première fois, c'était évident que la TOU fait une grande partie de la vie culturelle à Montréal. J'habitais à l'époque à Saint-Michel, donc je n'étais pas très loin. Mais même quand je parle des gens qui habitent pas du tout à Saint-Michel, mais plutôt partout dans la ville, tout le monde connaît la TOU. Et la programmation et le festival.
Alors, pour parler du rayonnement international, la TOU contribue à positionner Montréal comme capitale internationale des arts du cirque. Comment se distingue-t-elle des autres acteurs du monde circassien qui sont assez variés à Montréal?
Mais nous, on est diffuseurs, donc on ne crée pas notre propre spectacle, on ne produit pas nos propres spectacles, mais on diffuse des spectacles qui existent. Et aussi, on a une volée professionnelle pendant les festivals qui est vraiment axée sur la diffusion et de mettre en place des tournées, des spectacles avec d'autres diffuseurs qui viennent de partout au Canada, des États-Unis et aussi Europe, qui viennent à Montréal pendant les festivals pour chercher des shows achetés, entre guillemets, pour présenter chez eux, mais aussi dans cette cadre de le MIC, le marché international de cirque contemporain, le volet professionnel. En fait, on met en avant les spectacles de nos amis québécoises, les compagnies québécoises, avec Cirque Alphonse, avec La Noce d'Alphonse, la nouvelle création qui va être chez nous pendant le festival. Mais il y a des diffuseurs qui viennent pour chercher et voir ce spectacle pour voir si ça répond à leurs besoins de programmation chez eux. Donc, on est vraiment une porte d'entrée pour les compagnies qui veulent faire tourner leur spectacle en dehors du Montréal et en dehors du Québec. Et aussi, une porte d'entrée pour les acheteurs, des programmateurs qui viennent à Montréal pour chercher des shows et les artistes.
Oui, donc vous considérez comme la porte d'entrée du milieu circassien en Amérique du Nord.
Mmh.
La TOU propose des spectacles en saison, mais tout au long de l'année, mais également son festival Montréal Complètement Cirque du 3 au 13 juillet. Pourquoi ce festival? Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à votre programmation annuelle?
Mais la programmation annuelle est vraiment chez nous, dans notre salle à Saint-Michel, mais le festival, ça prend place partout à Montréal. On prend surtout dans le quartier latin, on utilise différentes salles de spectacle, l'espace cabaret Saint-Denis, ainsi que la maison théâtre, et on fait une programmation extérieure gratuite sur la rue Saint-Denis, dans le quartier latin. Et aussi, on a un projet, ça s'appelle Cirquezy, c'est une genre de pop-up bar avec des artistes du cirque qui sont les serveurs derrière le bar, et tout d'un coup, ils montent sur le bar et servent des numéros, on peut dire, au public. Et ensuite, ils reviennent en arrière du bar. Donc, le festival a des spectacles, des activités gratuites, ainsi que les spectacles payants en salle. Mais ce n'est pas juste le quartier latin et chez nous. On a une tournée des quartiers. Ça s'appelle, le spectacle s'appelle « Le pyjama du chat », qui va aller dans 9 différents arrondissements, quartiers à Montréal, pour présenter ce spectacle de 45 minutes à l'extérieur, gratuitement, au public montréalais.
Donc, vous avez aussi bien des spectacles dans votre bâtiment iconique,
oui.
Mais dans le quartier latin, dans différents cabarets. Et enfin, ce festival, le spectacle du pyjama du chat. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ce spectacle?
En fait, c'est un projet qui est fait avec l'École nationale du cirque, où la TOU et le Cirque du Soleil donner une bourse à l'école pour un genre de cadeau pour leur anniversaire il y a quelques années, avec l'objectif d'aider des étudiants, des finissants, de créer un spectacle qui peuvent tourner à l'extérieur, dans les rues, dans les parcs. Et donc, nous, on a travaillé avec ces artistes, une jeune collective, pour mettre en place ce spectacle. Ils ont eu leur propre metteur en scène, mais nous, on fait la diffusion pendant le festival. Et il y a la danse, danse, il y a l'accro. C'est vraiment impressionnant comme spectacle avec des jeunes artistes et des diplômés, récemment des diplômés de l'école, qui vont avoir leur première expérience en tant que collective dans un spectacle qui va tourner partout à Montréal. J'ai vu le niveau acrobatique, artistique, les compétences de ces artistes. C'est vraiment impressionnant.
Et alors, c'est un spectacle qui est gratuit, accessible à tous parce qu'il se déroule dans la rue.
Exact.
Pendant le festival Montréal Complètement Cirque, est-ce qu'il y a un spectacle que vous pouvez nous conseiller, un spectacle à ne pas manquer?
Oh, mais il y a tous les spectacles. Ouais, c'est pas facile à choisir une, mais je peux dire que les deux spectacles chez nous, The Genesis, c'est un gros spectacle avec 17 artistes sur scène qui n'ont jamais travaillé ensemble avant. Ah oui. Mais il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est pas de fun de monter une compagnie. Donc, ils ont cherché 17 acrobates. Ils ont travaillé pendant plusieurs mois pour monter ce spectacle pour la première fois. Et c'est vraiment impressionnant. Les colonnes à trois personnes, il y a accro, ils lancent des gens dans l'air. C'est vraiment impressionnant. J'ai adoré le spectacle quand je l'ai vu. Et aussi la nouvelle création de Cirque Alphonse, que moi, je viens de voir pour le premier mondial dans un autre festival du cirque, Juliette, qui existe. Il y a un festival là-bas que j'ai vu la première mondiale la semaine dernière. Et c'est tellement drôle comme spectacle. Il y a la musique live. On voit plein de moments comme des cirques traditionnels, mais présentés dans un format plus contemporain avec l'ADN de Cirque Alphonse, qui est une compagnie de chez nous, du Québec.
La TOU contribue aussi à l'éducation du public et constitue une mémoire du cirque grâce à des médiations, des expositions, la mise en valeur de collections d'œuvres et d'objets issus du patrimoine circassien. Pouvez-vous nous parler de ces missions qui sont moins connues du grand public?
Oui, en fait, ce qui est important pour nous, c'est de toujours éduquer le public sur le cirque. Pas juste contemporain, mais aussi l'histoire du cirque, le côté traditionnel, entre guillemets. Donc, chez nous, on a toujours une exposition permanente dans les coursives de l'atelier quand les gens rentrent. Et c'est une exposition qui change tous les 5 ans. Et présentement, c'est une super exposition. Quand vous venez à l'atelier, vous pouvez vous le voir. Dans les coursives, d'un côté, c'est le cirque d'un regard du public en tant que membre du public qui va acheter un billet, tout ce qui implique là-dedans, mais aussi de l'autre côté, c'est le regard d'artiste sur scène.
Mmh. Ouais. Quelle est votre relation avec l'École nationale du cirque ou avec même les autres acteurs du cirque ici à Montréal?
Ouais, on travaille avec toutes les compagnies. On essaie de présenter tous les spectacles de chaque compagnie. On essaie d'offrir la place pour ces compagnies parce qu'on est quand même une communauté du cirque. Il faut qu'on travaille ensemble pour être sûr que le public est bien connecté à notre milieu. Mais aussi, le lien avec l'école, c'est une voisine. Donc, on travaille beaucoup avec eux, avec le tournée des quartiers que j'ai bien mentionné. Mais aussi, moi, je suis finissante, diplômée de l'école. Donc, oui. Moi, j'essaie de toujours trouver des liens.
Garder la relation.
Ouais. Exactement.
Pour finir, où peut-on trouver votre programme du festival Montréal Complètement Cirque?
En fait, c'est sur le site web de Montréal Complètement Cirque en ligne.
Vous avez un site bien dédié, différent du site de la TOU.
Exact, mais en fait, c'est facile à trouver les deux, soit sur la TOU.ca, Montréal Complètement Cirque, le site web du festival.
Parfait. Bah, merci à Aaron Marquis. Je vous souhaite un très bon festival.
Merci beaucoup.
Merci, Pénélope. C'était Aaron Marquis, le directeur adjoint à la programmation et au développement des arts du cirque de la TEU. On prend une courte pause d'une 20aine de secondes et on revient avec le nouvel animateur des Aurores Montréal. Alors, nous sommes de retour, comme je disais, avec le nouvel animateur des Aurores Montréal. C'était ma dernière émission et maintenant, je passe le flambeau à Charles Pinel. Charles, en fait, qui faisait la mise en onde de l'émission il y a quelques semaines maintenant, Charles.
Oui, bien en fait, c'est mon deuxième été ici à CIBL. J'étais là l'été passé.
C'est vrai.
J'avais même animé les Aurores Montréal pendant les 2 premières semaines du mois d'août. J'étudie en journalisme à Jonquière, donc pour moi, c'est une belle expérience. Je suis vraiment content d'être là. Donc, merci de me tendre le flambeau comme ça.
Oui.
C'est sûr qu'au début, l'émission va prendre une petite couleur estivale, un peu plus légère, mais pour le programme de cet été, je nous offre un tour d'horizon des 19 arrondissements de la ville et peut-être faire un tour d'horizon en prévision des élections municipales qui auront lieu en novembre.
Effectivement. Donc, on a commencé, en fait, en recevant Luc Rabouin ce matin. Peut-être recevoir la candidate à l'opposition. Ah, j'entends le thème. Donc, c'était ma dernière émission. Et puis, Charles, je te souhaite bonne chance aussi pour la suite.
Merci beaucoup.
Donc, c'était notre dernière émission aux Aurores Montréal, mais l'émission continue lundi prochain. Je remercie tous nos invités d'avoir été avec nous et Charles Pinel à la mise en onde. Au revoir.
Vous aimez l'actualité? Des nouvelles vraies, des animateurs authentiques, des entrevues d'artistes captivantes et de la bonne musique? Recherchez l'application de l'ARCQ, l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec qui regroupe tout ça en un seul endroit. L'appli qui donne accès aux 37 stations de radio communautaires membres de l'ARC ainsi qu'à leur fil de nouvelles couvrant tout le Québec. Dans un paysage médiatique en pleine mutation où la multiplication des sources d'informations ne garantit pas toujours leur qualité, nos stations jouent un rôle crucial. Téléchargez l'appli ARCQ sur Apple et Google Play.
Je suis Mélissa et je vous attends à l'émission 20 ans branchés. Chaque lundi, de 8h30 à 9h, on explore ensemble l'impact des technologies numériques sur notre quotidien. Ne manquez pas ce rendez-vous inédit pour commencer la semaine.
CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal.
La radio communautaire, c'est parce que les gens se sentent impliqués, là, comme une espèce de longueur.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Bonjour et bienvenue à Point de vue, votre magazine dédié à l'actualité au pays. On a cinq sujets pour vous aujourd'hui. Les brûlots passent